gathered in their masses.
Bonsoir à tous, 20h01 sur l'antenne de Radio Canut, les plus rebelles des radios. Et oui, bonsoir à tous. Il est l'heure de Noise Pollution, émission numéro 93. On va attaquer ensemble ce week-end pascal de 3 jours. Voilà. En écoutant un petit peu de métal, de hard rock, nous sommes en compagnie du grand timonier, le seul, l'unique, le grand leader. Loué soit la parole du grand timonier.
Ah, ça y est, je suis son nouveau dieu, tout va bien.
Comment ça va?
Oh bah pas mal, je me suis bien remis du concert d'hier soir, sympathique, concert de DAD.
Exactement, on vous l'a suffisamment vendu et c'était tout à fait festif le concert hier au Ninkasikao des DAD avec, comme tu le précisais d'ailleurs la semaine dernière, un excellent groupe français qui s'appelle Bukowski. Je vous ferai découvrir ça.
J'ai pas vu, mais...
T'as pas vu, bah oui.
Bah non, il y a des choses comme ça.
Mais c'était excellent et sur le coup j'ai un peu discuté avec eux, j'ai pris leur CD. Je vous en ferai passer la semaine prochaine.
D'accord, c'est le nouveau CD?
Non, le nouveau n'est pas encore sorti. C'est le précédent qui date de 2010, mais qui est déjà tout à fait intéressant.
Et ben, on m'a parlé aujourd'hui du dernier, on m'a dit que c'était super bien aussi.
Ah, bah écoute.
Bientôt.
Voilà.
Alors, nous allons commencer cette programmation par une fausse news. Un groupe qui vient de sortir un disque qui était déjà sorti. Il faut quand même. J'ai découvert une sorte d'élixir de jouvence. Si vous êtes comme moi, âgé, que vous avez écouté du métal dans les années 80 et que des fois, face au groupe de jeunes, vous avez un peu du mal, pour retrouver votre jeunesse, je vous conseille d'acheter un live d'Iron Maiden, parce que là, vous vous mettez à chanter tous les morceaux par cœur. Et faut dire que j'étais très sceptique au début sur l'idée d'éditer Maiden England 88, un live donc de 1988.
Époque Seven Son of a Seven Son, donc.
Tournée historique, hein. C'est la tournée avec les deux albums un peu différents, avec un peu des claviers très progressifs de Maiden. Et ça existait déjà sous forme de VHS, d'ailleurs, que pas mal de gens avaient usé.
De VHS,
oui, c'est les cassettes avec des bandes magnétiques. Enfin bon,
non, je plaisante.
Voilà, les moins de 25 ans connaissent pas. ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, ils ont eu la bonne idée de le sortir et en DVD avec deux documentaires et en double CD et en double vinyle. Et j'avoue que là, toute cette semaine, je l'ai écouté tous les jours. Et c'est une tuerie. Ah oui. Non mais c'est alors je crois que comme moi tu avais vu cette tournée là à Paris.
Oui, tout à fait.
Avec Anthrax, Trust, oui, et
oui.
Halloween.
Oui,
je crois que c'était ça la formation.
C'est Monster of Rock,
Monster of Rock, ouais. Et c'était énorme. Et cet album est donc énorme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a 3 morceaux assez rares qu'on retrouve sur cet album. Il y a Sanctuary chanté par Bruce Dickinson, qui était sorti en live à l'époque de Live After Death sur un maxi. Et puis surtout, il y a 2 choses incroyables. Il y a la version de Killer chantée par Dickinson, qui est assez rare en live, qu'on écoutera la semaine prochaine. Et ils ont joué Still Life. Still Life, c'est un morceau de Peace of Mind. C'est le morceau dans lequel il dit "We give me peace of mind". Et ben ils l'ont joué en concert
sur cette tournée.
Voilà, parce que depuis, je crois que pas jamais, et ça a jamais été enregistré en live par Maiden. Donc on va s'écouter Still Life, morceau obscur un peu de Peace of Mind.
Thank you. Look in the pool and what do you see?
Voilà, un morceau vraiment ultra rare. Moi, je me rappelais pas qu'il avait joué à l'époque, du coup, mais bon, parce que le concert datait quand même de 88, donc ça commence à faire un petit peu d'années derrière nous. Mais en tout cas, voilà, ils ont joué Still Life, ils l'ont enregistré sur ce double album. Donc voilà, on notera quand même le côté négatif, il faut toujours qu'il y en ait un petit. Il y en a un petit, c'est que...
Oh, comment ça, non,
ouais,
non.
C'est qu'il y a des moments, on se demande s'il y a des guitares dans Maiden, tellement que la basse, elle est mixée en avant. Je sais, Steve Harris, c'est un tueur, tout ça. Mais bon, quand même, à un moment, faut laisser la place aux autres. On pourra lui dire ça un petit peu.
1900, émission numéro 93, je le disais en préambule. Donc, comme ça, il y a fait quelques semaines qu'on fait ça maintenant, on va s'intéresser donc à l'année 1993, avec un album absolument incontournable. En tout cas pour moi, ce qui est peut-être pas évident pour la grande majorité. Mais je crois aussi que c'est un album que toi.
Ouais, mais, j'ai encore plus adhéré à Sud après.
Sud après. Ben, moi, c'est l'inverse. Donc, comme on le fait maintenant, on parlera du groupe après. Pour l'instant, je vous laisse découvrir ce morceau. Voilà, c'est parti. Retour en 1993 avec la machine à remonter le temps. Lost, qui nous sortait son quatrième album en 1993, le monstrueux Icône.
Et c'est le premier album de Paradise Lost qui va marcher, exploser.
Exploser, notamment en Allemagne.
Ah ouais, parce qu'en Allemagne, à l'époque, je me rappelle, tout le monde disait, mais ils vendent plus que Metallica. C'était le cas en 93.
Ah, 93,
alors que Metallica était déjà un groupe énorme.
Ouais.
Mais en Allemagne, Paradise Lost était arrivé à être au-dessus du géant américain.
Ah ouais, exactement, mal. Avec cet album absolument monumental, qui s'appelle donc Icône, sorti en 93. Alors moi aussi, je suis tombé sur ce groupe à ce moment-là, avec un, c'est c'est un album qui est truffé de perles, un véritable chef-d'œuvre. Début des années 90, il faut se souvenir, c'était vraiment le gros buzz autour de cette espèce de gothique metal. Tout un tas de groupes sont sortis à cette époque-là. On pense notamment à Moonspell, Tiamat, Saint-Saint, tous ces groupes-là. Il y avait vraiment un foisonnement au niveau de cette scène européenne. Et Paradise Lost est un des plus grands, dignes représentants de cette scène-là. Un groupe qui s'est jamais arrêté, qui a eu des bas, des hauts.
Des très bas.
Des très bas. des artistiquement, hein. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé d'accord.
Il y a un album archi pourri que même eux renient.
Ouais, renient. Le Believe in Nothing, qui était sorti en 2002, je crois. C'était l'époque où ils essayaient de faire un peu du rock pour passer sur MTV. Bon, bref. Mais Paradise Lost, c'est un groupe qui reste toujours d'actualité. Ils ont sorti un album encore l'année dernière, qui était absolument excellent.
Le concert était très bien, d'ailleurs.
Le concert était très bien. Tout à fait. Donc voilà. Paradise Lost pour marquer cette année 1993.
Alors on poursuit avec une nouveauté cette fois-ci, une vraie nouveauté, un disque enregistré il y a quelques semaines et qui sort maintenant.
Ils sont rapides.
Hein. Ouais, peut-être plus longtemps. Un groupe que j'avais passé il y a 15 jours, je savais pas trop comment définir leur musique et je sais toujours pas. Si ce n'est que dans les interviews, eux ils disent qu'ils font du métal progressif, donc on va garder ce style-là. C'est le groupe Intronautes.
On est loin de Dream Theater tout de même. Hein.
Oui, alors c'est pas du tout dans ce genre-là, mais c'est bien et du métal et quelque chose de progressif. Les morceaux sont assez longs, ça part un peu dans tous les sens, il y a un petit côté Tool, mais il y a plein d'influences. C'est un groupe hypnotique et assez incroyable, très difficile d'accès, faut quand même le dire. Mais une fois qu'on est dedans, moi je suis devenu vraiment très fan de ce disque et je remercierai Stéphane quand même de regarder.
Stéphane Ozio, oui.
Voilà, de m'avoir fait découvrir ce groupe. On écoute The Welding. Alors c'est quand même leur quatrième album hein, d'Intronautes, qui sont californiens tout de suite. Je vais vous donner le titre de l'album parce qu'il est bien. Habitual, attention, Habitual Levitation Instilling Words with Tones. Ouais, il fallait faire des titres à rallonge, ils l'ont fait. Ouais. C'est parti. Voilà, donc les Californiens de Intronautes, c'est comme ça que je pense que ça doit se prononcer, avec leur quatrième album. Voilà, un métal un peu barré, ça part vraiment dans tous les sens.
Un tout petit peu, oui.
Ouais, et c'est vraiment incroyable. J'avoue qu'au premier abord, c'est pas facile d'écoute, mais une fois qu'on est bien rentré dedans, ceux qui aiment ce genre de choses, c'est à conseiller.
On va continuer avec un album et un groupe dont je vous avais déjà parlé il y a quelques temps. Je reviens dessus parce que le CD, je l'ai ressorti et il tourne actuellement chez moi très très régulièrement. Il s'agit du groupe qui s'appelle 6IM. C'est le groupe solo, enfin le projet parallèle de Nicky Six. Qui est Nicky Six?
Il chante dans Motorhead.
Ouais. C'est presque ça. Il est aussi bassiste, effectivement. Nicky Six, qui s'agit bien entendu du bassiste de Motley Crue, bassiste et principal compositeur de Motley Crue, enfin un gros un des principaux compositeurs de Motley Crue.
Mais du coup, on est assez loin du hard glam de Motley Crue là.
Tout à fait. Donc 6IM, c'est son projet parallèle qu'il a monté avec DJ Ashba, qui est donc un des guitaristes de Guns N' Roses, et surtout James Michael, qui est un producteur assez célèbre de la Californie et qui chante extrêmement bien. Et d'ailleurs, je soupçonne qu'il a choisi cette personne pour chanter des morceaux avec plein d'émotions, des choses que Vince Neil dans son groupe Motley Crue ne sait pas faire. Bah, je pense.
Non, mais Vince Neil, il a un côté beaucoup plus rock'n'roll qui passerait moins, effectivement. On sent que le choix est différent.
Exactement. Bon, je peux rien cacher. Tu as tout dit. Donc je vous propose un nouvel extrait du deuxième album qui s'appelle This Is Gonna Hurt, un album en fait qui illustre, qui a accompagne un livre de photographie que Nicky Six a fait.
Le premier illustrait une biographie aussi.
Exactement. Il sait tout ce grand homonyme.
J'ai même écouté les disques et je j'aime pas.
Je comprends pas. Pourtant c'est un hard rock, enfin assez radio. Ouais, oui, tout à fait.
Très radio. Ouais.
Mais qui cartonne quoi. Enfin c'est vraiment que des tubes. Donc
et les goûts,
pour
les
le démontrer,
couleurs.
Oui, effectivement, on va pas discuter. Mais... Pour le démontrer, je vous propose un extrait qui s'appelle Help Is On The Way, 6IM. c'est super festif, ça. Moi, j'adore.
N'empêche, moi, ce qui m'épate, ouais, c'est que Raph, oui, c'est il moi. Est capable d'écouter du greencore, ouais, et il nous amène un truc hyper radio américain. C'est quand même un truc de
ouais,
fou, quoi.
Hyper formaté radio. Ouais, non, mais ça marche super bien. Je trouve que c'est ultra efficace. Nicky Six hein, qui a composé tous les morceaux. Donc Six I Am, c'est en fait les initiales Six. Bon, pour Nicky Six, A comme DJ Ashba, M pour James Michael. Donc voilà, Six I Am, l'album c'est This Is Gonna Hurt. Précipitez-vous chez votre crémier. Il est en ce moment pas cher.
Oui, c'est le moins qu'on
puisse dire. Très peu cher, ouais, même.
On poursuit tout de suite avec un double album qui contient 40 morceaux. Non, ce n'est pas du greencore. Non, ce n'est pas une compile de musique de fou. Il s'agit du dernier album de Mathias Eklund.
Guitariste c'est... fou suédois, non?
Ouais, de Freak Kitchen. Ah,
exact.
Qui est un gars, qui a un niveau de guitare exceptionnel et qui est un mec très délire. Je l'ai vu au Hellfest il y a deux ans. Et il avait fait plein de blagues. C'est un gars qui a l'air de pas se prendre au sérieux. Ce qui est sympathique aussi de temps en temps quand même de se payer une tranche de délire. Et donc là, il sort la deuxième version de Freak Guitar. Il avait déjà sorti un album qui s'appelait Freak Guitar. Là, il a mis tous les petits morceaux qui traînaient, les délires qu'il a fait. Par exemple, son son de réveil fait bip, 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 bip. Il a monté un morceau avec ce son-là en essayant de jouer pareil. Enfin, c'est un truc de fou à faire passer pour Stevie, pour un mec rangé et pas expérimental.
Mais ça a un intérêt. Enfin, je veux
ouais,
dire,
ouais, ouais, parce que les morceaux sont super bien.
Alors, ah ouais, quand même. Ouais.
Ça part vraiment dans tous les sens. Il y a des morceaux ultra jazz, il y a un peu de tout. Et mais voilà, c'est une sorte de version ultime du délire guitare qui peut exister. 40 morceaux, double album. Je vous propose un petit morceau qui s'appelle Blaha Blaha. Donc, c'est a priori ce que disait son fils à 3 ans. Enfin, voilà. Vous allez voir. C'est vraiment ultra délire. Et puis, ça tue au niveau guitare parce que là, il n'y a pas de problème. Il maîtrise le monsieur. Donc, c'est Mathias I.A. Eklund. Bon, c'est donc un énorme album de délire guitaristique. C'est vraiment un ovni. Mais ça s'adresse vraiment à ceux qui aiment la guitare, parce que si vous aimez juste un peu Joe Satriani ou les trucs et que vous supportez juste ça en guitare instrumentale, c'est pas la peine. Donc l'album, ça, donc le guitariste, je vous rappelle, c'est Mathias Eklund. L'album s'appelle Freak Guitar et comme c'est le deuxième, il lui a donné un sous-nom qui s'appelle The Smorgasbord. Oui, je sais pas bien ce que ça signifie.
C'est du suédois probablement.
Peut-être.
Et voilà, il est l'heure, il est temps de support sur Local Team, votre rubrique habituelle où on s'intéresse à un groupe de la scène locale. Donc aujourd'hui, une nouvelle fois, on va s'arrêter à Lyon avec un groupe qui s'appelle Diquet. Un groupe lyonnais, donc formé par quatre personnes, qui s'est formé, c'est un groupe très très récent, qui s'est formé en 2011, en février 2011, qui a déjà eu le temps de nous pondre un premier EP, qui est d'ailleurs libre d'accès. Vous vous rendez directement sur reverbnation.com, donc le site de partage musical, et vous cherchez donc Diquet, et vous aurez donc accès à leur premier EP, qui s'appelle Prélude, P-R-E-L-U-D-E. Donc trois morceaux. Dans une veine metalcore néoclassique, ressemble un petit peu à Adagio. Tu connais Adagio, toi?
Attends, mais tu veux dire qu'on peut mélanger le metalcore et le néoclassique?
Exactement. Je vais t'en proposer un extrait.
Ah, oh, c'est incroyable. Là, je suis surpris.
Ah, tu es soufflé. Ah non, mais attends, on a une scène de toute façon locale extrêmement foisonnante et très très inventive. Je vous propose donc le premier morceau de ce EP, Prélude. Le morceau s'appelle We Hate Yourselves. Nous haïssons, littéralement.
Pas nous.
Oui, mais
nous,
eux-mêmes.
Nous, on s'aime.
On s'aime, forcément. Allez, c'est parti. Diquet.
Yeah. forbidden children, fear, seclusion, minds conditioned to the spill of pure hatred. Never ending fights in the name of whatever the fuck. Someone fucking stop this shit!
Voilà, les Lyonnais de Dickey avec un extrait de leur EP qui s'appelle Prélude. Le morceau c'était We Hate Yourself. Je vous rappelle donc que vous pouvez trouver ce EP directement sur le net pour le télécharger tout à fait légalement sur le site reverbnation.com. Voilà, et vous découvrirez donc ces petits Lyonnais qui ont un bel avenir devant eux, j'en suis persuadé. On va en profiter pour faire la petite rubrique concert.
Ah, oh yes.
Hein, quelques concerts. Je vais pas aller jusqu'au bout parce qu'il y a de multiples dates. On a vraiment une belle série de concerts jusqu'à l'été, jusqu'au Hellfest, notre pèlerinage annuel. Donc, ça commence la semaine prochaine, le 2 avril. Nous avons double concert, deux dates, enfin deux concerts, le même jour, le 2 avril. Donc déjà, au Ninkasikawa à Lyon, c'est les Rival Sons. Ça, c'est pour le grand timonier en particulier. Et le même jour, au fil de Saint-Etienne, une date un peu plus velue avec Hypocrisy et Hate. Le 3 avril, le lendemain, Stratovarius. Au Ninkasi. Tu y seras, hein, au grand timonier.
Non.
Non, d'accord.
Et le même 7... Rivalson, j'ai un souci.
Ah, mince.
Alors que je suis ultra fan.
Ah, tu m'expliqueras. Hors antenne. Le 7 avril, au Transborder, Gojira. Le 10 avril, au Ninkasikawa, un triptyque français. Acme, Het et Black Bomb A. Donc là, ça va swinguer. Et le, ouais, clairement.
Ouais. Oui, j'ai rien dit.
Tu te moques, j'ai l'impression.
Non,
le 12 et le 13 avril, un festival fort intéressant qui se trouve au Klaxon de Oulin, le Stone Rising Festival. Donc c'est le vendredi et le samedi. Le vendredi, nous avons My Sleeping Karma et Loading Data. Alors, vous écoutez Noise Pollution et vite, vous prenez votre vélo, vous vous rendez au Klaxon pour assister à la fin du festival. Et le lendemain, le samedi, vous avez Cadavar en tête d'affiche. Donc il y a tout un ça commence je crois à 18h ouverture des portes avec plein de groupes, j'ai pas tout cité.
Donc c'est dans la veine Stoner, Doom,
exactement,
comme ça,
avec un nom pareil, ouais, Stone Rising Festival, ça va être super intéressant ça. Le 24 avril à l'Altony Garden, nous avons Rammstein et je m'arrêterai là. Le 1er mai 2013 à la tannerie de Bourg-en-Bresse, nous avons les Sepultura. Ah, si je voulais juste faire une petite aparté, le 24 mai, nous avons la cave musique à Mâcon, les Circle, Two Circle, qui joueront donc le Edge of Thorn de Savatage, avec Nightmare en première partie. Alors, il y a une date à Mâcon, donc le 24 mai, il y a une autre date aussi le 1er juin à Grenoble. Donc, deux dates très rapprochées pour les Circle, Two Circle.
Oui, il est tombé cette semaine une date en novembre, je peux l'annoncer.
En novembre, oui, on va en reparler.
Oui, mais juste pour dire aux fans de Léprousse qui reviennent nous voir, ils sont venus il y a pas bien longtemps, groupe de métal progressif, excellent groupe de métal progressif.
Dans la même veine aussi, je voulais pas en parler, mais comme tu évoques des concerts très lointains, nous avons Within Temptation aussi qui revient en novembre.
Voilà, c'est pour ça qu'il faut dire, pour que les gens se préparent psychologiquement.
Oui, il faut vraiment se préparer psychologiquement.
Alors, il est 9h42 à la pendule, toujours à l'heure de la plus rebelle radio.
Non, c'est toi qui étais à l'heure, oui.
8h42, yes, je t'en avance. On change d'heure ce week-end, c'est pour ça, moi je suis
ah mince, on change d'heure, je suis pas au courant.
On m'a dit ça, mais je suis pas sûr non plus, c'est peut-être une légende urbaine. On va au Danemark avec alors pour l'instant on a passé des groupes un peu cool et un peu calmes, et ben on va rester dans les groupes ultra cool et ultra calmes.
Vous inquiétez pas, ça
il a prévu ça. Des trucs qui tabassent après le père Raph. Oui, un groupe qu'on aime bien tous les deux, qui depuis 1984 et la sortie de leur album Red Hot and Ivy nous balance des albums toujours aussi bons un bon mix entre des morceaux un peu commerciaux, un peu FM, et
Pretty
puis des
Meds.
Morceaux très Ivy, voilà, Pretty Meds, les Danois de Pretty Meds. Le dernier album nous avait enchanté, je pense. Ah,
Pandemonium, fabuleux album. Et il y a une interview que j'ai lue dans un canard où d'ailleurs ils étaient très très contents du retour qu'ils avaient eu. Ah ouais.
Et les voilà de retour avec un nouvel album. Ça doit être leur 13e. Il s'appelle Motherland. Et j'avoue que moi, j'adhère beaucoup moins.
Ah mince.
Ouais.
Ah ça, c'est pas une bonne nouvelle.
Cet album est beaucoup plus mou, beaucoup plus. Ils ont laissé la place en majorité aux morceaux ultra mélodiques et ultra FM. Il y a pas mal de claviers. Donc ceux qui étaient plutôt fans de cette partie-là de décomposition de Pretty Bête, ça va vous plaire. Ceux qui aimaient plutôt les morceaux un peu plus heavy, là on les cherche quand même, faut le dire. Donc voilà, c'est un album un peu notamment il y a des morceaux mou, ça commence par un espèce de single ultra commercial qui alors que d'habitude il commence par le morceau le plus speed de l'album pour qu'on rentre dedans. Voilà, je sais pas, c'est un peu bizarre. En tout cas, c'est bien en dessous de Pandemonium. Il y a un ou deux morceaux qui sont quand même vraiment pas mal, notamment le morceau générique qui donne le nom à cet album, c'est Motherland, donc les Pretty Maids. Donc voilà, l'album Motherland de Pretty Maids avec le morceau du même nom. Alors j'ai mis le morceau que je trouve moi le mieux du disque et le plus speed.
Oui, il est un peu péchu.
Oui, il est bien péchu. Malheureusement, ils sont pas tous dans cette veine-là. Alors Pretty Maids a jamais fait un album complet avec des morceaux ultra péchus. Mais je trouve que c'est moins équilibré que d'habitude. Et voilà, moi je reste sur ma faim sur ce disque. Bon, après, si vous êtes plutôt fan de du côté FM, l'album est bien composé, c'est super mélodique comme d'habitude. Mais il y a quand même beaucoup de claviers, moi je trouve.
Bon, t'es un petit peu déçu, toi, par cette nouveauté.
Ouais, mais ça arrive.
Pretty Meds. Bah moi, il y a une nouveauté qui m'a absolument enchanté, chers auditeurs et chères auditrices. C'est un album que je vais vous passer pendant un petit moment, je pense. Il s'agit du deuxième album des Norvégiens de Gvelertak. Bah, c'est un groupe absolument extraordinaire. Enfin, j'ai pas de mots. Ouais, quoi.
Il aime tellement ça qu'il s'est fait tatouer le logo sur la fesse droite.
Ouais, exact. Ouais, magnifique, hein, d'ailleurs. Donc Gvelertak, deuxième album. L'album s'appelle Mer. Donc Gvelertak, je rappelle, hein, en norvégien, c'est strangulation. Oui, ils sont très inventifs, ces Norvégiens. Donc ils chantent entièrement en norvégien. Il mélange un espèce de rock'n'roll très punk avec une voix black metal absolument du meilleur effet. Je vous propose donc un deuxième extrait. On nous a déjà passé la semaine dernière, mais je repasse un morceau, c'est trop bien. Le morceau, ça s'appelle Trepan, du norvégien, c'est peut-être Trepanation, je sais pas, un truc comme ça. Allez, on écoute ça. Gvelertak. Gvelertak, donc les Norvégiens, extrait de leur deuxième album qui s'appelle Mer, le morceau c'était Trepan, je vous en repasserai la semaine prochaine, tellement c'est bien, tellement ça permet de swinguer.
Alors vous savez, il y a des moments, il y a quelques temps, j'avais faisais une rubrique qui s'appelait La cave de Maître Laurent, ça faisait ça en jingle. Voilà, Voilà, c'était notre ami King Diamond,
King Diamond.
Qui faisait le Up From The Grave. Alors, je vais faire une cave aujourd'hui, sortir un groupe qui a sorti un seul album en 1986 sur un label français qui s'appelait Black Dragon Record, un label ultime, de référence.
Ils ont les groupes.
Voilà, le premier Candlemass est sorti dessus. Enfin, ouais. Voilà, des trucs de fou. J'en passe aujourd'hui. J'avais pas prévu du tout de t'en passer, mais j'ai appris cet après-midi que le guitariste, compositeur, chanteur Jeff Ulmer est décédé. Donc du coup je me suis dit tiens, on va rendre hommage à ce groupe que personne connaît
puisque là, dans les studios on se regarde.
Donc le groupe s'appelle Sacred Blade, la lame sacrée. Ils ont sorti un seul album. Alors j'ai découvert aujourd'hui qu'il avait remonté un autre groupe où il avait réenregistré tout cet album-là qu'il avait ressorti au début 2000. Bon, en gros dans sa vie, ce gars, il a composé 12 morceaux. Voilà, et il joue avec. Par contre, c'était une petite merveille, un petit chef-d'œuvre. On se situe dans le métal progressif de l'époque, c'est-à-dire ce groupe sort en même temps que Queensrÿche, première époque. Voilà, on est Fates Warning, première époque. On est là-dedans. L'album s'appelait Off the Sun and Moon. Et on va s'écouter d'ailleurs le morceau qui s'appelle Off the Sun and Moon. Donc c'est la version de Black Dragon, donc pas remasterisé, avec un vieux son de 1986. Voilà. Voilà, alors je sais, c'est un petit peu vieux, faut dire que ça date de 1986, le groupe s'appelle Sacred Blade, donc il n'a existé que pour faire ce disque Off the Sun and Moon avec l'album du même nom, le morceau et l'album du même nom, sur le label français Black Dragon Records. Et c'était pour rendre hommage à Jeff Ulmer, donc guitariste, chanteur, compositeur, qui jouait un peu tout, jouait aussi de l'orgamone sur ce disque, il faisait un peu tout quand même, c'était un peu lui. Voilà, avec cette voix, on disait, très grave, qui sort de... D'habitude, comme ils font... J'ai passé un morceau un peu calme, mais il y a des morceaux qui sont beaucoup plus métal progressif de l'époque. En général, les chanteurs étaient ultra aigus. Ce groupe se démarquait totalement de la scène. C'était la première fois qu'il y avait une voix plutôt grave sur du métal progressif.
Voilà. D'accord. C'était l'historien du métal, ouais, le grand Timonier Laurent.
Celui-là, on n'est pas beaucoup à connaître, mais c'est vraiment...
beaucoup.
Si on tape sur Internet maintenant Sacred Blade of the Sun and Moon, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ont redécouvert, ça a été réédité, pareil, et qu'il y a des gens qui adhèrent, qui disent que c'est un chef-d'œuvre, etc. Je suis pas le seul à le dire non plus, je me sens pas totalement isolé, mais je le défends sans problème.
On va continuer avec une petite nouveauté, un album qui est sorti en début d'année. Il s'agit du 11e album, et oui déjà, des Grecs de Rotting Christ. Donc qui nous sort l'album qui s'appelle, alors là c'est très très compliqué, Kataton Daimona Etoi. Donc c'est un album qui parle des démons, enfin des démons intérieurs de tous les êtres humains en fait, voilà. Donc Rotting Christ au départ c'était du black metal extrêmement malsain, vraiment très très blasphématoire. Rotting Christ, hein, le Christ pourrissant, vous l'avez compris. Mais c'était surtout en fait une espèce de, comment dire, une espèce de gimmick, hein, à l'époque. Ils avaient tous des noms comme ça à coucher dehors, je pense à God Dethrone, des choses comme ça. En fait, Rotting Christ est quand même bien plus, bien plus intelligent, et notamment au fil de la discographie, ils ont sorti pas mal d'albums qui notamment rend hommage aux racines grecques du groupe, et pas mal d'albums historiques, je pense notamment à Halo, qui était un superbe album. Donc voilà, Rotting Christ nous sort son nouvel album, 11e. Je vous propose, pour découvrir tout ça, le morceau qui s'appelle, ah, c'est aussi très compliqué, Panchon Kachoun Touta Kachoun.
Voilà, il maîtrise pas le grec.
Ah non, du tout.
On va se dire au revoir juste avant le morceau de Rotting Christ, parce que c'est fini, les punks sont là. Donc notre invité mystère que vous n'avez pas entendu, mais qui est là, peut confirmer que les punks ont des grosses crêtes rouges.
Ouais, elle est belle, ouais, sa crête rouge là. Et il a une super batte de baseball qui va avec, je sais pas ce qu'il va faire avec.
Ouais, c'est pas, il a une chaîne aussi qui pend au nez, mais bon, c'est un punk.
Ouais, voilà.
Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour Noise Pollution numéro 80.
14. Bonne semaine à tous, portez-vous bien, ciao.
Bye bye.